Chapitre 2. Traits d'esprit et d'invention. Un coup si violent, au moment où Camilla se berçait des plus flatteuses espérances, l'aurait plongé dans une situation plus cruelle que l'affliction même, si la douceur et la générosité d'Edgar, les vœux qu'il faisait pour son bonheur et la liberté qu'il lui laissait d'expliquer, comme elle voudrait à ses parents, les motifs de leur séparation, n'avaient pas vaincu la fierté qui combattait sa tendresse. Elle ne pouvait se défendre d'admirer une conduite qui n'offrait rien à censurer, rien qui pût affaiblir ses regrets. Melmont et sa sœur, toujours sensibles et compatissants, virent avec un chagrin réel la douleur dont Camilla paraissait accablée. Elle monta droit à sa chambre et fit entendre à son amie, par un geste, qu'elle désirait n'être point suivie. Elle se détourna brusquement de Mrs. Mittin, qu'on rencontrait toujours. Mrs. Burlington la laissa libre, mais Mrs. Mittin n'était pas si facile à renvoyer. Elle était chargée de plumes, de gaze et de rubans, et Camilla vit son nouvel habit de bal étalé sur son lit. La première vue de cet ajustement aggrava sa peine. Elle le considéra comme une dépense superflue et fort au-dessus de ses moyens. Mais l'espoir le plus léger était toujours favorablement accueilli dans le cœur de Camilla. Edgar devait être au bal. Et pourquoi n'y viendrait-il pas? Il avait, à la vérité, pris congé d'elle et se proposait de quitter l'Angleterre. Mais était-il probable qu'il évitât l'occasion de la rencontrer encore une fois? La réponse à cette question fut conforme à son désir, car c'était son désir qu'il avait faite, et son ingénieuse et fertile imagination lui peignit encore à son gré les incidents de la soirée. Edgar, à la même danse qu'elle, leur conversation reprise, l'occasion de l'assurer de sa sincère estime et de l'injustice des soupçons qu'il avait conçus, en supposant qu'elle trouvait trop de rigueur ou d'austérité dans ses opinions ou dans sa conduite. Cet espoir était trop incertain pour dissiper totalement ses inquiétudes, mais il les calma. Elle fut bientôt occupée d'une autre affaire dont les difficultés étaient pour le moment plus pressantes. Peu de jours après son arrivée à Southampton, une pauvre femme qui blanchissait pour elle était venue lui présenter une requête en faveur de Higden, son frère, qui tenait une petite boutique. Des pertes le réduisaient à l'impossibilité de donner de l'argent ou des sûretés aux marchands en gros pour en obtenir un nouveau fonds de marchandises. En remontant sa boutique dans cette saison favorable au débit, il avait l'espoir d'échapper au malheur de voir ses enfants réduits à l'aumône. Il en avait 5 qu'on fit successivement paraître devant Camilla sous différents prétextes. Sa compassion fut vivement émue par l'innocence de ses enfants qui semblaient ignorer les malheurs de leur père. Elle les reçut avec affabilité, mais pour procurer à leur père les marchandises dont il avait besoin, il ne fallait pas moins de 30 guinées. Camilla déclara qu'elle était loin d'avoir cette somme à sa disposition, mais qu'à son retour à Clèves, elle tâcherait de les obtenir de son oncle. On parvint à lui faire donner cette promesse aux marchands en gros. Mais une promesse verbale ne leur parut pas suffisante, et Mrs. Mittin, qui, par des considérations personnelles, s'intéressait vivement au sort du malheureux père de famille, offrit de répondre pour lui, quoique son revenu ne passât guère les 30 guinées, pourvu que Camilla voulût s'engager par écrit sur son honneur de l'indemniser à sa majorité des pertes que ce cautionnement pourrait lui faire éprouver. Camilla fut déterminée par cette clause à refuser l'engagement qu'on lui demandait. Elle protesta qu'elle n'aurait pas plus de moyens de l'acquitter lorsqu'elle serait majeure. Mais Mrs. Mittin assura les marchands qu'elle était l'héritière d'une très grande fortune, qu'elle le tenait d'une personne à qui son propre frère l'avait dit, et qu'elle ne s'en défendait probablement que dans la crainte d'être dupée. Cependant, 2 jours après, la blanchisseuse ayant amené ses enfants solliciter en faveur de leur père, Camilla ne put pas résister au sentiment de la compassion. Elle doutait si peu de la générosité de son oncle qu'elle se hâta de sécher les larmes de cette famille désolée. Les marchandises furent livrées et ses protégés vinrent lui faire leurs remerciements. Aujourd'hui, comme elle sortait de dîner, Higden se présenta encore tout en larmes et lui raconte qu'un panier rempli de bouteilles d'huile, qui formait un article de ses achats, avait été brisé par un accident et que tous les ballots qui l'environnaient se trouvaient tachés et perdus. Camilla tâcha de calmer son affliction, mais la somme qu'elle devait solliciter de son oncle était si forte qu'elle ne pouvait plus lui promettre des secours. Higden la pressa toutefois en observant qu'un petit supplément pouvait encore le tirer d'affaire. Mais Camilla ne voulut point courir des risques qui pouvaient faire tomber sur d'autres la punition de son imprudence, promit d'écrire en sa faveur et refusa de rien faire de plus avant que d'en avoir les moyens. Aussi tourmentée de son refus que le malheureux Higden, elle alla s'habiller sans regarder son ajustement. Son esprit agité, non entre l'espoir et la crainte, mais entre l'espérance et le désespoir, ne lui permettait point de considérer l'élégance de sa parure. Le souvenir de ce qu'elle coûtait et le chagrin d'avoir été soupçonnée par Edgar de coquetterie ne lui laissaient que le regret de l'avoir acquise. Mistress Burlington n'en voulait point à Camilla de l'avoir éclipsée dans la dernière partie, mais elle en était surprise. Et quiconque a joui d'une supériorité habituelle et reconnue doit convenir qu'il paraît un peu dur d'en déchoir si inopinément. Mistress Burlington n'avait jamais été vaine, mais elle ne pouvait pas ignorer qu'elle était belle, encore moins concevoir que le simple attrait de la nouveauté pût l'emporter sur les grâces de la beauté réunies à tout l'éclat de la jeunesse. L'inconscience du suffrage des hommes lui paraissait inexplicable. Elle s'en prit à la négligence de sa parure et résolut d'y donner pour cette fois plus d'attention. Camilla finissait sa toilette quand Mistress Pollard, la blanchisseuse, entra chez elle, suivie de deux jeunes enfants âgés d'environ 5 à 6 ans et d'une fille aînée qui pouvait en avoir 11. Ils se jetèrent tous ensemble aux pieds de leur bienfaitrice en s'écriant que si elle refusait de les secourir, leur ruine était inévitable. Higden, n'ayant pas eu la prudence de taire son dernier malheur, le propriétaire de sa maison, auquel il devait 18 mois de loyer, avait fait les poursuites nécessaires pour assurer ses droits. Il se disposait même à faire le lendemain une saisie qui devait ameuter tous les autres créanciers et conduire infailliblement le malheureux débiteur dans une prison, sans espérance d'en jamais sortir. Camilla, touchée de leur situation, ne savait à quoi se résoudre. La dette n'était que de 18 livres sterling. Elle connaissait la générosité de son oncle, sa sensibilité pour le malheur et l'abondance des aumônes qu'il avait coutume de répandre avant les extravagances de Lionel. Après quelques instants de silence, durant lesquels, fixant ses regards tantôt sur les infortunés suppliants et tantôt sur sa brillante parure, elle se demandait comment elle pouvait sacrifier tant d'argent pour son plaisir et si peu pour sauver toute une famille. Elle se détourna de son miroir en rougissant et consentit à traiter le lendemain avec le propriétaire. Le lord Perville avait ouvert le bal avant l'arrivée de Mistress Burlington. Il cherchait de tous côtés Camilla. Il l'aperçut et s'avança. Mais plus il en approchait, plus il avait de peine à la reconnaître. L'éclat de ses yeux était terni par ses larmes, sa vivacité presque éteinte avait fait place à la langueur, des soupirs étouffés remplaçaient les saillies de sa gaieté. Elle accepta sa main indifféremment. Son sérieux augmentait à chaque instant, ses yeux inquiets se promenaient partout, mais fuyaient ceux du lord. Et son danseur avait si peu de part à ses pensées, à ses regards, à sa conversation, que loin de reconnaître la beauté qu'il avait presque captivée dans le yacht, il croyait presque danser avec une statue que la musique avait le don de mettre en mouvement. Elle n'eut pas plus de plaisir à retirer sa main qu'il n'en eut à la lui rendre. Melmont, pressé par sa sœur, était venu au bal, quoique ses nouvelles idées sur Indiana augmentassent sa répugnance. Il ne lui fut pas possible d'éviter la beauté qu'il redoutait. Elle attirait tous les regards. Et la supériorité de ses charmes était d'autant plus frappante que toutes les femmes étaient vêtues d'un habit de bal complètement uniforme. Mais l'admiration qu'elle excitait naturellement ne lui parut pas suffisante. Pour la rendre plus vive, elle voulut avoir auprès d'elle un objet de comparaison et se promena dans la salle en donnant le bras à Eugénia. Ce contraste produisit tout l'effet qu'elle en attendait. Il amusait les spectateurs et renouvelait leur attention en reposant leur regard lorsqu'ils étaient là de la contempler. Eugénia n'eut pas le moindre soupçon de cette intention. Elle savait au contraire très bon gré à sa resplendissante cousine de la complaisance qu'elle avait de lui donner le bras, de l'aider à marcher, chose difficile pour elle dans une assemblée publique, sans s'embarrasser désormais si ses imperfections pouvaient être ou non un sujet de raillerie. Dès que Camilla fut libre, elle vint les joindre. Ses yeux cherchaient en vain Edgar, mais ne désespéraient point encore de le rencontrer. Miss Margland continuait à déclamer contre le docteur Horborn, qui n'avait paru nulle part. Eugénia, sincèrement attachée à son instituteur, en était sérieusement inquiète lorsque Clermont vint les joindre et leur dit avec un grand éclat de rire « Écoutez, une excellente histoire. Le docteur a manqué de se noyer et n'a pas mangé de tout le jour une bouchée. » Il raconta que son domestique, l'ayant aperçu assis au bord de l'eau, sur une pile de planches, le dos tourné, afin de n'être point interrompu dans ses méditations, il s'en était approché comme pour lui demander des ordres, attendu qu'il allait retourner à la maison. « Ce n'était pas toutefois, ajouta l'Inmer, avec le projet de faire des commissions. Oh, Bob n'est pas si bête. C'était simplement pour avoir le plaisir de l'impatienter, car Bob est un plaisant. Rien ne l'amuse autant que de tourmenter le docteur quand il étudie. Sa colère le fait rire aux larmes. Il lui répondit d'un ton assez tranquille et lui recommanda seulement que, tandis qu'il serait dans le yacht, on n'alla pas fourrager ses papiers dans sa chambre, qu'il avait oublié malheureusement de fermer. « Mais, monsieur, lui répondit Bob, il y a 2 heures que le yacht est parti. » Bob assure que jamais rien ne l'a plus amusé que la surprise du docteur. Il sauta, dit-il en s'écriant, « Quoi, le yacht est parti ? Et mise Eugénia, j'ai promis à Sir Hugh de ne pas la perdre un instant de vue. Amenez-moi vite un bateau, dit-il, tout comme il aurait dit, faites avancer un fiacre. » Il ne se trouva qu'un petit bateau pêcheur. Bob proposa de conduire le docteur et fit un certain signe au batelier, car il a tous ses gens dans sa manche. Notre latiniste saute dans la barque et les voilà partis. Bob crut qu'il en mourait à force de rire. Eugénia l'interrompit pour savoir ce qu'était devenu le docteur. L'Inmer, en ricanant de son inquiétude, lui répondit que Bob avait dit au pêcheur d'aller tout droit à la pêche, à moins que le docteur n'offrît de le payer généreusement pour le conduire au yacht, et que la curiosité de savoir la suite de cette excellente aventure l'avait attiré lui-même sur le rivage avec Adair et quelques autres camarades. Il avait envoyé Bob s'informer si le pêcheur était rentré. C'était précisément au moment où la barque arrivait avec le docteur, les poissons et les filets entassés tous ensemble. « Jamais, ajouta-t-il, on n'a rien vu d'aussi plaisant. J'ai cru que je ne pourrais jamais cesser de rire. » Il était si mouillé, si transi, si mal à son aise. Et quand je pensais qu'il avait été tout ce temps sans manger, j'étais prêt à me rouler par terre. Il sentait si fortement la marée que j'aurais volontiers embrassé Bob pour lui avoir fait un si bon tour. Nous lui donnâmes chacun quelques écus pour le récompenser de son excellente invention. « Le pauvre docteur Hogborn, et où est-il ? » dit Eugénia. Le pêcheur nous a conté toute l'affaire. Il nous a dit que le docteur avait été d'abord fort inquiet et fort impatient d'atteindre le yacht, mais qu'ayant tiré de sa poche un petit livre rouge et son crayon, il avait écrit aussi tranquillement que s'il fût venu dans le bateau pour cela. De façon qu'arrivé près du yacht, il ne voulut pas seulement lever la tête. Et lorsqu'on l'avertit qu'il allait passer outre, il répondit avec tant d'humeur au batelier de continuer son chemin et de ne pas l'importuner, qu'il résolut de suivre l'avis de Bob et d'aller à la pêche. C'est ce qu'il fit, et le docteur parut très satisfait jusqu'au moment où tout son papier se trouva rempli. Mais ce fut vraiment alors le plaisant de la scène, car ne pouvant plus écrire et regardant autour de lui, il vit la nacelle en panne et le patron qui pêchait tout à son aise. Il aurait fallu voir la colère du docteur. Le batelier dit qu'il était prêt à se précipiter hors du bateau. « Après ce que j'ai vu, dit Miss Margland, ceci ne peut me surprendre. Mais comment faire pour amener le pédant qui restera là si quelqu'un a la charité de le secourir ?» Eugénia souffrait. Melmont, enchanté de trouver une occasion pour s'éloigner des deux cousines, offrit d'aller chercher le docteur. Miss Margland accepta ses offres. Il partit. Son départ produisit le même effet sur Indiana et sur Eugénia. Elles le suivirent des yeux. Indiana, qui, plus d'une fois, avait rencontré les siens, voyait bien que sa passion pour elle existait encore secrètement dans son cœur. Elle résolut de se venger de sa petite humiliation en le ramenant à ses genoux, sans s'inquiéter de la douleur d'Eugénia, ni des suites d'un pareil événement, sans même réfléchir à ce qu'elle en espérait. Les esprits bornés qui croient avoir reçu une offense préfèrent la vengeance à la réparation, parce que, dans leur opinion, la première leur donne plus d'importance. Les yeux de Camilla cherchaient en vain Edgar. La soirée s'écoulait, Edgar ne paraissait pas. Ingénieuse cependant à prolonger son espoir, elle se flatta qu'il était peut-être dans une autre pièce de l'appartement qu'elle n'avait point visitée. Melmont revint, suivi du docteur. Miss Marland s'apprêtait à le réprimander vertement. Mais l'odeur de la marée lui parut si forte que, tirant promptement son flacon, elle le pria de s'éloigner d'elle. Il la regarda dédaigneusement et s'éloigna sans répugnance. Les jeunes personnes étaient toutes à danser. Dès qu'Indiana revit Melmont, elle résolut d'attirer son attention. Il ne faut pas beaucoup d'esprit pour pratiquer les ruses de la coquetterie. Il suffit presque d'avoir le désir d'être admirée. Elle feignit de se sentir très mal et, mettant la main sur son front, elle courut auprès de Miss Marland et s'appuya contre son épaule, comme si elle eût été prête à tomber en faiblesse. Melmont fut complètement la dupe de cette singerie. Il courut chercher un verre d'eau qu'il lui présenta d'une main tremblante et qu'elle reçut en tournant sur lui des regards languissants qui lui faisaient tout oublier, hors son amour. Il tenait ses yeux tendrement fixés sur elle, tandis que Miss Marland racontait comment le docteur l'avait infectée. Indiana prétendit qu'elle sentait cette horrible odeur, qu'elle se trouvait beaucoup plus mal et qu'elle expirerait si l'on ne s'empressait de lui donner un peu d'air. Melmont voulut ouvrir une fenêtre, mais une dame assise auprès déclara que cela l'incommoderait. Melmont eut recours au battant d'une porte qui donnait sous le portique d'un vaste jardin. Indiana s'y laissa conduire par l'amoureux Melmont. Miss Marland les suivit, mais la rencontre de Lady Perville, qui s'informa de l'incident, lui fournit l'occasion irrésistible d'invectiver contre le docteur Orborne, et quoique le détail de ses sujets de plainte intéressât fort peu la personne qui les écoutait, elle eut la complaisance de ne point l'interrompre, de sorte qu'Indiana se trouva seule sous le portique avec Melmont. Adler l'y suivit, mais la voyant avec Melmont, qu'il supposa l'homme en faveur, il se détourna en fredonnant et fit un tour de jardin. Cette situation était aussi dangereuse pour Melmont que satisfaisante pour la vanité d'Indiana. Elle lui retira sa main avec un air de dédain que l'illumination du portique et de la maison rendit très visible. Et lorsqu'il lui demanda d'une voix timide comment elle se sentait, « Pourquoi vous informer, lui répondit-elle, d'une chose qui vous est indifférente ?»« Juste ciel !» s'écria-t-il, emporté par un mouvement dont il ne fut pas maître. « Divine Indiana, accablez-moi de tout autre reproche, mais ne m'accusez point d'insensibilité pour tout ce qu'il y a de plus aimable et de plus parfait au monde. »« Je croyais, dit-elle en radoucissant ses beaux yeux, que vous m'aviez oublié depuis longtemps. » « Infortuné que je suis !» s'écria Melmont. « Une chaumière avec vous me paraîtrait préférable au plus superbe palais. Tous mes désirs seraient satisfaits et rien en ce monde ne pourrait me faire envie. » Ici, l'attention d'Indiana s'éveilla. Son imagination fut séduite par l'idée romanesque de l'amour dans une chaumière. Quoique incapable de connaître et de goûter le bonheur dont deux êtres vertueux peuvent jouir dans une pareille situation, elle imaginait qu'il pouvait être heureux parce qu'elle considérait la chaumière comme un bosquet où, couchée sur des roses, elle jouirait continuellement du plaisir d'être adorée. Melmont ne s'aperçut que trop tôt qu'elle semblait s'attendrir. « Oh, la plus charmante des femmes, continua-t-il, si vous pouviez lire dans mon cœur, vous ignorez ce que j'ai souffert, les instances de mes amis, le poids de mes malheurs et combien ils m'ont coûté pour renoncer à l'incomparable Indiana. » Il fut interrompu par un profond soupir, mais ce n'était pas d'Indiana qu'il partait. La surprise lui fit tourner les yeux vers la porte. Il aperçut Eugénia, pâle, tremblante et n'ayant pas la force d'en bouger. Glacé par la honte, il n'eut plus la force de parler. Il les regardait alternativement toutes les deux, la première avec désespoir et l'autre avec remords. Les reproches de l'honneur et de la probité blessée lui faisaient désirer la fin de cette scène déchirante. « Je n'ose, madame, dit-il à Eugénia, je n'ose implorer votre pardon. Il est cependant vrai qu'en vous demandant votre main, c'est moins vous que j'ai trompé que moi-même. Hélas, j'ai tout perdu. Je n'ai plus d'autre désir que d'être oublié de vous pour éviter le malheur d'en être abhorré. » Il disparut et, ne voulant plus rentrer au bal, il sortit par la porte du jardin. Eugénia tomba, presque sans connaissance, sur un banc du portique. Indiana feignit d'être sensible à sa douleur, mais sa vanité se félicitait. Indiana trouvait ridicule qu'une petite figure de cette espèce pût songer au mariage. Camilla vint les joindre. Elle fut effrayée de la situation d'Eugénia, qui, se penchant affectueusement sur son sein et soulagée par l'accent de la sympathie, lui dit en versant un torrent de larmes « Tout est dit, tout est perdu pour la malheureuse Eugénia. Melmont m'abandonne, me déteste et ma vue lui déplaît. » Camilla gardait le silence et pleurait avec elle. Indiana retourna danser et les deux sœurs restèrent ensemble jusqu'au moment de quitter l'assemblée. L'agitation de leurs âmes rendrait la fraîcheur de la nuit insensible. Affligées toutes les deux, elles n'avaient pour consolation que leur intérêt réciproque.